I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, le contact est mis. Bienvenue pour votre podcast Les Fous du Volant consacré à l'actualité de la Formule 1. On va se retourner vers cette 9e épreuve de la saison qui s'est déroulée le week-end dernier, le Grand Prix du Canada, avec la victoire de Max Verstappen devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton, le Néerlandais qui devance désormais de 46 points son plus proche rival au championnat. Max Verstappen qui n'a jamais été inquiété durant ce Grand Prix. On a eu un sentiment de solitude du champion pour le pilote Red Bull. On en parlera avec Stéphane Vrignoux, que j'ai même pas salué d'ailleurs. Ça va,
salut
Stéphane
Gilles.
Ça sera notre premier sujet. Exactement. Ouais, en forme.
Pas de décalage horaire.
Un peu quand même, mais c'est pour la bonne cause. L'épreuve de Montréal, sur laquelle on reviendra, donc, a vu le retour sur le podium de Lewis Hamilton, qui a terminé 3e, le septuple champion du monde qui n'était plus monté sur le podium depuis la manche d'ouverture à Bahreïn. Son patron avait évoqué un possible forfait. Finalement, il a même été plutôt vaillant pendant ce Grand Prix. Un podium, et après, on se demandera où en sont Lewis Hamilton et son équipe Mercedes, parce que honnêtement, c'est un petit peu difficile de cerner exactement la situation des deux. Sur le circuit, Gilles Villeneuve, Charles Leclerc, parti 19e sur la grille après un changement de l'ensemble du groupe propulseur de sa Ferrari, est remonté jusqu'à la 5e place. Et puis surtout, du côté de la Scuderia, Carlos Sainz a terminé 2e sur les talons du vainqueur. Ferrari, si près et si loin. En même temps, on en parle aujourd'hui dans Les Fous du Volant. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute Les Fous du Volant aujourd'hui avec ce titre, Verstappen, la solitude du champion. Stéphane, j'ai eu le sentiment... Il y a une image moi qui m'a marqué, c'était sur la grille de départ. Max Verstappen était devant sa voiture et j'avais le sentiment qu'il se sentait seul. Pourtant, il y a toujours de l'effervescence hein, sur une grille de départ. Et puis au Canada, on y revenait pour la première fois depuis 3 ans, il y avait vraiment de l'effervescence. Mais j'ai le sentiment qu'il était un petit peu seul parce qu'il regardait autour de lui. Et il faut bien reconnaître que sur la grille de départ, il n'avait pas les adversaires qui lui font le plus peur. Et je pense qu'il s'est senti un petit peu seul. Max Verstappen, qui donc a fini par s'imposer. C'est sa 5e victoire en 6 courses. Il a donc marqué 151 points sur les 6 derniers Grands Prix. Ça fait une moyenne de 25,1 points par week-end de Grand Prix. Alors oui, je sais bien qu'un Grand Prix, c'est 25 points. Donc vous allez me dire comment il a fait pour marquer plus. En Émilie-Romagne, il y avait la course sprint qu'il avait remportée également. Ça fait 8 points de plus. 25 points de moyenne pour Max Verstappen. 9 pour Charles Leclerc. Le delta, il est là, on en a déjà parlé, hein, évidemment. Et Stéphane, on en est à une série de 6 victoires pour Red Bull pendant ce temps-là. Et ça, c'est quand même un marqueur que à la fois Max Verstappen et Red Bull sont en train de prendre l'ascendant sur ce calendrier 2022.
Oui, je te dirais, Gilles, que Montréal, c'était même punition, même motif qu'à Bakou. L'équipe avait dit que ce circuit reprenait des caractéristiques du circuit du Grand Prix d'Azerbaïdjan, des grandes lignes droites où la Red Bull est quand même à l'aise en Vmax, des changements de direction très, très prononcés, très, très vifs. Et donc, c'est ce qu'on avait ce week-end dans les pif-paf, dans les chicanes du circuit Gilles Villeneuve. Donc, tout ça, c'était vraiment pour la... la Red Bull, et puis aussi une bonne capacité à sortir, à s'extraire en fait des virages lents. Donc ça aussi, c'est ce qui a fait le contraste entre Red Bull et Ferrari. Tu mets ça tout ensemble, et puis ça fait une copie quasiment parfaite. Alors tu l'as dit, se sentait un petit peu tout seul, c'est vrai. Alors, non pas parce que Charles Leclerc partait dans les derniers, mais parce qu'il n'avait pas en couverture Pérez et que Alonso avait dit je vais l'attaquer. C'est ça, donc ce qui est jamais à prendre à la légère venant de Fernando Alonso. Alors, en plus, ouais, Alonso, c'est quelqu'un qui est assez safe. On sait qu'il ne va pas faire une erreur grossière sur les départs. Il a la quarantaine, il est très expérimenté, donc il ne fait pas ce genre d'erreur. Mais n'empêche, il n'était pas très rassuré parce que lui, ce qu'il voulait, c'était partir tout seul, s'échapper, gérer. Et on l'a vu d'ailleurs dans le deuxième relais, il a 8 secondes d'avance sur Sainz. Il contrôlait, il a jamais poussé en fait.
Ouais, je crois qu'il n'a jamais eu peur pendant ce Grand Prix. Il a fait le ménage autour de lui depuis le début de la saison. Les autres prétendants à la couronne sont tous maintenant à distance respectable. Hein. Sergio Pérez, qui a donc abandonné, problème de transmission, hein, c'est ça pour le Mexicain, se retrouve désormais à 46 points de Max Verstappen. Charles Leclerc est à 49. En fait, ce qu'on a vu là sur ce Grand Prix du Canada, c'est la poursuite d'une sorte de turnover qui s'est instauré depuis quelques Grands Prix. Mais Max Verstappen reste en fait le point central, le pivot, et c'est ce qui lui permet de s'envoler vers le titre. Hein. Je reprends là les 10 premières places sur la grille de départ. C'est complètement fou. Donc il y a Max Verstappen. À côté de lui, Fernando Alonso en première ligne, assez improbable. Carlos Sainz sur la deuxième ligne. Là, pour le coup, il fallait quand même se méfier du pilote de la Scuderia. Lewis Hamilton, malheureusement, on sait que la Mercedes est un petit peu en difficulté. Kevin Magnussen et Mick Schumacher en troisième ligne. Esteban Ocon, George Russell, Daniel Ricciardo, Guan Yu Zhou. Bon, ben, j'ai envie de te dire, là, c'est quand même un sacré turnover. Hein.
Oui, et c'est peut-être pour ça qu'il avait un petit peu peur, parce qu'il savait qu'il fallait qu'il devait faire un break. Là, il prend 15 points à Leclerc. Il avait ça en tête. Et lui, son championnat, bah, c'est mener une guerre d'usure. C'est pas juste remporter des victoires. Là, c'est une victoire qui valait 15 points, en fait. C'est pas négligeable. Parce que maintenant, en fait, Leclerc, il a refait son pack moteur. Donc, il repart à peu près sur un plan d'égalité. Sauf que maintenant, bah, les points, il les a engrangés. Et ouais. Ça, c'est fait.
Ouais. Exactement. Et puis, il a la réussite du champion. Hein. J'évoquais l'abandon de Sergio Pérez, frappé par un problème de transmission. Ça place finalement son coéquipier désormais, pour de bon, dans une place de second, parce que 46 points de retard, ça fait presque deux Grands Prix complets en termes de dotation de points de retard. Autrement dit, Christian Horner a toute légitimité, en cas de situation un peu compliquée, de dire à Sergio Pérez, laisse ta place à Max Verstappen. On va quand même noter qu'il le faisait déjà avant d'être dans cette situation, pour être 100% net. Mais alors là, maintenant, ça devient parfaitement légitime.
Alors, il était très très fort, Checo Pérez, ces derniers Grands Prix. On le sentait monter en pression. On se disait, tiens, est-ce qu'il ne s'est pas mis au niveau de la voiture, parce qu'elle est tellement facile à piloter. Mais en fait, non, elle n'est pas facile. Mais il avait trouvé quelque chose depuis Monaco. On se posait des questions, franchement. Et là, bah, il était le maillon faible.
Hein. Oui, avant l'abandon, il avait déjà beaucoup de mal à exister.
Mais il a fait une bêtise, surtout en qualif. Et c'est ça qui l'a précipité. Il est 13e, je crois, sur la grille. Voilà, après, une faute quand même où... On l'a vu au même endroit, je crois, hein, c'est Sainz qui avait pris l'échappatoire. Et là, en fait, il a essayé d'insister. On voyait dès le départ. Enfin, je trouve que c'est une erreur de jugement qui est assez surprenante de sa part.
Mais même en libre, il n'était pas bien.
Voilà. Et là, il insiste. Bon, bah, il y va tout droit. Sans ça, il peut continuer. Il peut se qualifier dans les 3-4 premiers, être en couverture. Et là, il décroche carrément, quoi. C'est clair, Pierre. Bon, avec cette histoire de boîte de vitesse. Alors, est-ce que dans le choc, est-ce que... dans la tentative de revenir, est-ce qu'il n'a pas abîmé les boîtes de vitesse, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune je dirais obligation de la FIA, imposée par la FIA, d'avoir une boîte de vitesse qui peut supporter un choc comme ça. On demande juste que la voiture puisse se dégager d'une situation périlleuse. C'est à ça qu'elle sert la boîte de vitesse,
la marche arrière.
La marche arrière sur la boîte de vitesse. Et peut-être que, effectivement, ça, c'est, comment dirais-je, c'était peut-être le point faible chez Red Bull, parce que aucune écurie ne développe, en fait, une boîte de vitesse perfectionnée avec une super marche arrière qui peut même en faire plusieurs de façon safe.
Ouais. Bon, c'est un point faible, apparemment, hein, de ce qui circule, c'est un point faible chez
tout à fait. Est-ce que ça vient de là ou pas ? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un organe mécanique qui a cédé. Et puis, alors évidemment, il y a des axes d'amélioration. C'est ça qui est incroyable quand même, parce que Helmut Marko, donc le conseiller sportif chez Red Bull Racing, répétait que la Red Bull n'est pas encore au poids. Contrairement à la Ferrari, il a dit dans les derniers Grands Prix, en fait, on a vu que la Ferrari était au poids. Il a même dit 1,5 kg en dessous le poids. Alors, je ne sais pas d'où il tient ces informations. Ouais. Il doit avoir une taupe chez Ferrari. Bref, ou alors c'était peut-être pour faire un peu de provoque, je ne sais pas.
Mais chez le faux pour savoir.
Mais tu l'as vu quand même l'Alfa Romeo, qu'on a vu que le retour concret des lestes qui sont placées dans l'aileron avant, c'est du tungstène, c'est un matériau qui est très dense. Et on va les voir arriver. Et c'est comme ça qu'on va comprendre qu'un tel ou un tel
les
est
équipes qui ont réussi finalement à arriver au poids ou pas. Alors, on a parlé de Sergio Pérez. Charles Leclerc, on l'a dit, hein, il a pris le départ en fond de grille suite donc à son changement de moteur et à l'ensemble du groupe propulseur. Honnêtement, je vois mal comment... On va en reparler de toute façon. On en reparlera plus en détail un petit peu plus tard dans ce podcast du cas Ferrari. Mais là, ça concerne aussi Max Verstappen. On voit mal comment on va pouvoir finir la saison sans aller chercher encore éventuellement un cinquième moteur pour Charles Leclerc. Et puis, il n'est pas remonté aussi vite, aussi haut qu'il l'espérait. Et du coup, ça laisse encore effectivement Max Verstappen prendre 15 points supplémentaires d'avance par rapport à Charles Leclerc. Et puis, il y a Carlos Sainz aussi, qu'on évoquera aussi un petit peu plus tard. Mais finalement, il l'a contrôlé. Carlos Sainz, il avait vraiment tout pour battre Max Verstappen. Il avait des pneus plus frais. Il y a eu le safety car. Il avait le DRS. Il y a 3 DRS sur le circuit Gilles Villeneuve. Il n'a jamais réussi à l'avoir. On a vraiment le sentiment qu'il l'a contrôlé, tu sais, un petit peu à la manière d'un boxeur qui avec son direct, hop, garde son adversaire à distance en disant non, ne viens pas dans mon périmètre.
Il a dit qu'il a eu un petit peu de mal parce que le DRS est un effet surmultiplié par rapport à certains autres circuits. Donc, quand Sainz le pressait, c'est vrai qu'il n'avait pas de garantie. C'était l'erreur interdite, c'est vrai. Mais je dirais qu'il a été proactif aussi. Il a saisi la première opportunité de voiture de sécurité virtuelle pour rentrer. Il avait envie d'imprimer en fait sa patte sur cette course, de montrer qu'il était le patron. Il a saisi cette opportunité. Au contraire, Sainz a laissé filer. On en reparlera. Mais tout ça fait que, il était le patron. Et d'ailleurs, Gilles, tu l'as dit, en lançant ce sujet, ça fait 6 victoires de suite pour Red Bull.
Ouais.
Ça, quand même, c'est aussi la marque d'une certaine hégémonie qui commence à s'installer. On a regardé, d'ailleurs, ces séries de victoires. Alors, Mercedes en a fait quelques-unes, quand même, sur cette période instaurée de la motorisation hybride depuis 2014. Il y a eu 7 victoires en 2014-2015. Le record, c'était 10 pour cette période-là, de cette période hybride en 2016. Et puis 9 encore en 2019. 7 en 2020, et ça, ce sont des titres signés par des pilotes Mercedes, donc il n'y a pas d'histoire. Quoi. Quand ta voiture elle tourne bien et tu es capable d'enquiller autant de victoires, ça ne fait pas un pli. Et puis, quand on en vient aux belles années de Vettel chez Red Bull, c'était 9 victoires pour conclure le championnat 2013. Donc là, ça veut dire qu'il a, il a une voiture qui est devenue presque incassable. Il faut faire un petit peu attention parce que Checo Pérez a eu un souci. Mais quand tu es capable de cogner comme ça, Grand Prix après Grand Prix, ça veut dire que tu as un petit peu de marge. Parce qu'il l'a dit lui-même, il aurait préféré attaquer plutôt que défendre.
Je trouve cette phrase incroyable. en fait, on a presque le sentiment qu'il s'est un petit peu ennuyé. C'est pour ça que je trouve ce mot « solitude du champion » particulièrement adapté. En descendant de la voiture, on avait presque le sentiment qu'il s'est dit « Ouais, bon, j'ai gagné. Voilà, ok, c'est bien, mais il ne s'est pas amusé, en fait. »
Non, et puis, sur le Grand Prix précédent, je crois que c'était à Bakou aussi, il avait été un petit peu rappelé à l'ordre sur son rythme de course en disant « Ménage ta mécanique. » Et là encore, le deal, c'était de gagner le plus lentement entre guillemets possible, c'est-à-dire avec le moins de marge possible. pour ne pas taper dans la mécanique. Ouais. Voilà, là, il y avait des bordures aussi assez hautes au Canada.
Ah, c'est vilaine, hein.
Voilà, ça, c'est très, très mauvais pour les transmissions. On sent qu'il a fait attention à tout ça. Il est en mode gestion, vraiment. Je trouve vraiment que c'est un autre pilote depuis déjà l'année dernière. On l'avait vu, mais il est vraiment dans la peau d'un champion du monde.
C'est très étonnant et je suis très content que tu dises ça parce que, regarde ce que j'ai noté. Pour moi, on est entré dans une autre dimension pour Max Verstappen, qui rappelle un peu celle de Lewis Hamilton il y a quelques saisons, celle de Michael Schumacher aussi, un petit peu plus tôt, là, faut être un peu plus âgé. C'est manifestement désormais le plus fort en termes de pilotage. Il dispose probablement de l'auto la plus efficace, pas la plus rapide, attention, je pense que sur un tour, la Ferrari est
peut-être
encore
la plus complète.
Voilà, exactement. Oui. C'est pour ça que j'employais ce mot de efficace. Et en gros, si vous prenez les 13 dernières épreuves de la saison, ben, vous pouvez le mettre en favori de chacune d'entre elles, parce que c'est désormais ce package Verstappen-Red Bull, ça fait de lui le favori pour chacune des 13 dernières épreuves de la saison. Et honnêtement, c'est une voie royale vers un deuxième titre de champion du monde. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ah là, je ne vois pas comment est-ce que Ferrari maintenant peut inverser la tendance. Il faudrait quand même qu'il arrive quelques pépins aussi encore à Verstappen comme en début de saison. Une conjugaison de deux facteurs. On l'espère quand même encore pour l'intérêt du championnat.
C'est sûr.
Forcément.
Ouais. Ouais.
Mais on l'imagine de moins en moins.
Ouais, c'est ça. On n'y croit plus trop. On verra si c'est la solitude du champion sortant ou si c'est la solitude du champion à venir, double champion éventuellement à venir pour Max Verstappen. Alors il y a un autre grand champion qui s'est illustré pendant ce Grand Prix du Canada, c'est évidemment Lewis Hamilton qui a retrouvé le chemin du podium. Et alors Stéphane, je suis allé rechercher un peu dans les statistiques, c'est une série de 7 Grands Prix sans podium pour Lewis Hamilton. Et bien dans son curriculum vitae, la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2009. Alors évidemment, il n'était pas déjà chez Mercedes, il était chez McLaren. La McLaren 2009 n'était pas une super auto, c'est un euphémisme. Et ça nous a valu quand même des images assez incroyables, une réaction. Il a dit qu'il était submergé par l'émotion. Un garçon qui a gagné 103 Grands Prix et qui se dit submergé par l'émotion de monter sur le podium. Il a tout connu. Alors évidemment, il y a eu l'histoire de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan la semaine dernière, où on l'a vu descendre de sa voiture très péniblement, en souffrant vraiment du dos à cause des rebonds dans les lignes droites, avait été évoqué au fait la possibilité qu'il soit carrément forfait pour ce Grand Prix. Finalement, il a été là. Les Grands Prix vendredi, c'était absolument la catastrophe.
Oui.
Il finit par, parce que c'est Lewis Hamilton et qu'on a quand même changé son fusil d'épaule chez Mercedes, finir quatrième sur la grille de départ, ça c'est déjà quand même un premier exploit. Il fait une course agressive, hein. Il fait comme Max Verstappen en rentrant dans les stands pour changer de pneu dès le premier safety car. Et il a fait, il a fait une course à la Hamilton en fait.
Oui, c'est exactement ça. On a presque vu trois Hamilton différents, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, comme il le disait lui-même, la voiture est impossible à piloter, c'est un désastre, elle a empiré. Ils étaient en train d'installer une tige en fait de renfort pour rigidifier le plancher. Ils sont en train de tester plein de choses en ce moment. Mercedes transforme chaque séance d'essai en
laboratoire.
En laboratoire, exactement. Il est surtout sur des réglages qui sont extrêmes, sur des pièces qui sont très différentes de ce qu'a Russell. Et tu sens qu'il est en difficulté, c'est-à-dire qu'il est vraiment à la peine de tester toutes ces choses là pour faire un peu la preuve que tout ça, que plein de choses ne fonctionnent pas, et puis on essaie encore autre chose parce qu'on ne met pas la main sur ce qui va bien. Bon, et puis il racontait toujours la même histoire, c'est sur ses rebonds, les reprises de grippe, c'était pas à Bakou parce qu'il y avait du vent dans la ligne droite à Bakou et que les voitures étaient à combien, 350, 360, ça allait un petit peu moins vite au Canada, mais c'était les mêmes problèmes en fait de reprise de grippe. Il disait la voiture menace de partir dans tous les sens, donc surtout des murs qui sont encore à proximité immédiate.
Très peu de dégagement
donc,
aussi
était,
à Montréal.
Pas bien. Et puis samedi, là, on se dit, tiens, il y a un facteur Hamilton qui va reprendre le dessus, c'est que c'est un très bon pilote sous la sur le mouillé. Il sent un petit peu les choses. Tout est là, dans la capacité à faire monter les pneus en température. C'est surtout ça. Il sait le faire. Et on a vu aussi, c'est pas pour rien que Alonso s'en est très très bien sorti aussi. Donc là, on s'est dit, bon, il y a une petite parenthèse, c'est bien, ça lui permet une quatrième place. Mais le dimanche, tu l'as vu vraiment marsouiner la voiture, la Mercedes. Moi, j'ai pas remarqué énormément. Peut-être autant que les autres, mais c'était pas la caricature de Baku.
Alors que vendredi, c'était. Et pourtant, voilà. D'après les informations qu'on a, Lewis Hamilton avait une auto qui était plus haute déjà dès vendredi, avec des réglages plus souples pour essayer justement de lutter contre ce marsouinage. Et la simulation de course qu'il devait faire, finalement, il l'a même écourté parce qu'il a dit c'est pas possible, je ne peux pas piloter cette voiture. Bon, on a plutôt bien changé son fusil d'épaule du côté de chez Mercedes. Où je suis un petit peu embêté, Stéphane. Voilà, c'est formidable de revoir Lewis Hamilton parce que c'est un grand champion et que ça nous fait plaisir, qu'on aimerait bien aussi qu'il se mêle de nouveau à la bagarre pour les places sur le podium plus régulièrement et aussi même pour des victoires. Moi, il y a un flou, je trouve. J'ai du mal à lire ce qui se passe en ce moment chez Mercedes parce que on a de nouveau entendu que peut-être on allait voir revenir une W13 avec ponton. Tu sais, hypothèse qu'on avait déjà évoquée avant Barcelone, bon, qui avait finalement été écartée en disant non, on y va parce que c'est vraiment la direction qu'on veut suivre pour les 2-3 saisons à venir, en gros jusqu'en 2026. Et là, ça ressort. J'ai le sentiment là qu'on a une difficulté à fixer un cap et à le tenir. Malgré les difficultés, et j'ai l'impression en fait que ce rôle c'était un peu celui qui était tenu par Niki Lauda, et que depuis la disparition de Niki Lauda, eh bien ce rôle n'est plus tenu par personne chez Mercedes. Niki Lauda, il est décédé en 2019, et en 2019 tout allait bien. Tu as mentionné la série de victoires de Mercedes, donc finalement c'est dans le gros temps que les bons capitaines se font remarquer. Je ne dis pas que Toto Wolff n'est pas un bon capitaine, c'est un manager hors pair. Mais là, j'ai le sentiment qu'il est pris de court, qu'il aurait besoin d'un Niki Lauda à côté de lui pour lui dire à quel moment il faut soit garder le cap en disant « on garde cette W13 sans les pontons et on arrête de dépenser de l'énergie en se disant qu'on a peut-être une solution autre » ou alors, eh ben on décide, on change, ok, sans les pontons, ça ne marche pas, allez, on retourne en arrière. Et là, tu sais, tu es sur l'autoroute, tu sais pas si tu dois sortir, si tu dois rester, si tu dois sortir, si tu dois rester. C'est la meilleure méthode pour te prendre le terre-plein central et te retrouver dans le décor. J'ai un petit peu ce sentiment-là en ce moment chez Mercedes, une difficulté à lire un petit peu l'avenir de ce qui se passe, de prévoir, de diriger cette équipe.
Ouais, on a vu quelques plans sur James Allison, qui est maintenant le directeur, le chef du bureau technique. Il a pris un petit peu d'auteur, c'est plus lui qui gère, qui a le poste de directeur technique au quotidien, mais c'est tout comme si, vu l'urgence de la situation, je dirais, et il était, on l'a vu, quand même assez pensif. Alors, pour en venir à Niki Lauda...
Ils sont tous très fatigués. Hein.
Niki Lauda était là, chez Mercedes, à l'écoute des pilotes, pour relayer leurs besoins, leur donner du confort, les rassurer, parfois les tenser aussi un petit peu, parce que quand il y avait des frictions ou quand l'un ou l'autre faisait des erreurs, je pense surtout à Rosberg, à la période Rosberg, Hamilton, voilà. Et moi, je pense que si Niki Lauda avait été encore là, je pense qu'il aurait déclenché l'alarme un petit peu plus vite concernant ce fameux marsouinage et cette atteinte vraiment à la condition physique des pilotes, et spécialement de Lewis Hamilton, qui vit très très mal tout ça depuis le début de la saison. Et on n'en serait peut-être pas à ébaucher des solutions ou chercher. Et lui, il aurait déclenché ça au bout de 2 ou 3 Grands Prix. On a attendu 7 ou 8 Grands Prix pour commencer à en parler. Baku, c'était le 8e Grand Prix. Ouais. Et il était très très attentif à ça. Et il avait une relation très très forte avec Hamilton de ce point de vue-là.
C'est lui qui avait fait venir Lewis Hamilton chez Mercedes, faut s'en souvenir.
Tout à fait. Mais moi, ce que je trouve quand même bien, c'est que, par exemple, Hamilton, il a fait preuve d'une ouverture d'esprit. Là, il a dit, j'ai fait du simulateur. Alors, pas longtemps. Alors, je ne sais pas si le simulateur reproduit aussi le marsouinage. Est-ce qu'ils sont capables de refaire ça? Parce que
aussi violemment,
c'est un petit peu compliqué tout
ça.
Mais en tous les cas, il a la volonté de fouiller, de chercher des solutions. Il était au simulateur, il a déclenché une réunion pour dire bon maintenant on fait quoi, etc. C'est-à-dire que on l'écoute en fait, c'est ça, on s'appuie beaucoup sur lui parce que George Russell, il va très vite, mais il n'a pas cette expérience-là. Donc on lui fait confiance Hamilton là-dessus, et on pense que c'est lui qui peut encore trouver la solution. On lui fait tester plein de choses, c'est lui qui fait la synthèse, et oui, après on verra ce qu'il en est. Bon, mais cette histoire de ponton, oui, il va peut-être falloir qu'ils se...
Au moins qu'ils prennent leur parti, on va dans un sens ou on va dans l'autre.
Oui, alors je ne sais pas ce qu'il en sera. C'est encore le... Je ne sais pas en termes de design, c'est certainement moi de doute. Alors, oulk, il y a le break. Donc après, c'est peut-être l'échéance, parce que fixer les choses au mois de septembre, arrêter une configuration, je ne sais pas s'ils peuvent se le permettre, peut-être, j'en sais rien, mais on est dans le money time, c'est clair, ils aimeraient trouver des solutions. Alors je ne sais pas si ce résultat, quand même, que moi je trouve bon, je trouve qu'il a fait son meilleur Grand Prix depuis le début de l'année. Et alors c'est la quatrième fois quand même de l'année que Mercedes fait 3 et 4. À l'arrivée, donc c'est pas rien, mais on voit vraiment que c'était moins, entre guillemets, galère que sur les fois précédentes.
Eh oui, bah, il y avait plus Pérez et il y avait Leclerc était derrière aussi.
Aussi, hein, aussi. Ça les a mis un petit peu artificiellement à ces positions-là, mais je pense qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose, je ne sais pas. Enfin, c'est des enseignements supplémentaires. Cette piste-là n'était pas un cadeau. J'espère qu'ils en ont tiré des enseignements. Mais tu remarqueras quand même qu'on ne parle pas de développement en soi. On cherche toujours corriger ça.
Oui. Il y a un sentiment d'urgence, en fait, qui se dégage de tout ce qui se dit. Et Lewis Hamilton, après le Grand Prix, disait cette course, et dans l'ensemble, ce week-end, nous a apporté des datas qui vont nous permettre de faire progresser la voiture des Silverstone. Alors, moi, je veux bien, mais je me suis...
Il le dit souvent, à chaque fois.
Ouais, c'est voilà. Mais ça, c'est un peu, tu sais, c'est un peu la béquille quand tu es en difficulté. Ouais. Sauf que là, moi, tu vois, en fait, je me suis fait la réflexion. Les datas que mentionne Lewis Hamilton, elles ne sont utiles que si elles sont utilisées par de bons ingénieurs. Je ne dis pas que les ingénieurs de chez Mercedes sont mauvais, mais il y a eu une fuite des cerveaux chez Mercedes sur les 15-18 derniers mois. On en a parlé plusieurs fois. Toto Wolff s'est même un petit peu agacé à communiquer sur le fait qu'il se faisait piller ses équipes techniques par Red Bull pour beaucoup, et notamment dans le département motorisation,
oui,
qui n'est pas en cause là, mais on a un des anciens responsables de l'aéro de chez Mercedes qui était parti chez Aston Martin aussi. Tiens, c'est marrant, Aston Martin, ça commence à marcher après quelques mois de présence. Il y a aussi ça qui a sans doute amoindri en grande partie la capacité de réaction, de correction de Mercedes. Faut pas oublier que ce sont les hommes qui font les machines, pas l'inverse.
Ouais, et c'est toute là la difficulté de renouveler ton staff. Peut-être que Toto Wolff l'a pas vu venir, parce que ça, c'est arrivé après une série de 6-7 titres mondiaux. Oui. Et les gens sont un peu émoussés. Ils se disent, bon, bah, après, on a montré ça. Est-ce qu'on est obligé de le montrer jusqu'à 12 ou 15
Et puis, c'est pas ça, Stéphane.
Les gens ne se sentent plus obligés. Ils ont envie de faire autre chose.
Et puis, ces ingénieurs-là, ils sont comme vous et moi. Ils ont fait leurs preuves. On va leur proposer plus d'argent dans d'autres équipes.
À
un moment, ils monnayent le talent qu'ils ont. C'est humain, c'est logique.
Je crois que c'est en 18 mois, on a eu le renouvellement du chef motoriste, du directeur technique. Ça pose quand même des grosses questions. Hémorragie du côté du moteur, ce qui est quand même aussi pas rien. Bon, je ne sais pas si ça a été mal négocié comme ça, mais après, il y a des groupes de gens aussi qui travaillent entre eux. Quand tu as une ou deux personnes qui s'en va, ça crée le doute chez les autres qui ont des propositions. On le sait. En fait, je pense qu'ils reçoivent assez régulièrement des propositions.
C'est logique.
Et puis là, on a un effet boomerang. Mais alors, la question surtout qu'on se pose, enfin moi, que je me pose maintenant, c'est comment est-ce que Toto Wolff va faire, puisqu'il a le paddock vent debout contre lui. Lui, il explique grosso modo qu'il faudrait... une mesure commune à toutes les voitures, style remonter la caisse.
C'est ça, ce qu'on a évoqué la semaine dernière.
Exactement.
Et en fait, on l'a pris exactement à contre-pied du côté de la FIA.
Alors, déjà, la FIA, ils disent, on peut le faire vendredi, mais non, on va attendre samedi.
On va attendre samedi, c'est beaucoup mieux.
C'est ça, là déjà. Voilà.
C'était prévu qu'il pleuve samedi, et ils ont choisi
la
mesure.
Ce que je ne comprends pas,
Peut-être qu'on peut expliquer à ceux qui nous écoutent sur ce podcast ce qui s'est passé, en fait. La FIA a donc décidé, effectivement, qu'il fallait intervenir pour limiter le rebond des voitures. Et la première décision qu'ils ont prise à la FIA, qui est logique, c'est finalement de mesurer ce phénomène sur les voitures, de savoir quelles étaient les accélérations, les jets que prenaient les pilotes de manière verticale. Parce que c'est à partir de ces données-là techniques concrètes qu'on peut ensuite décider d'une solution.
Et puis les quantités d'oscillations.
C'est ça.
Aussi, c'est-à-dire la fréquence.
De voiture à voiture.
Oui.
Et en fait, là où ils ont pris totalement à contre-pied Toto Wolff, et j'avoue que moi aussi, parce que nous, ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, c'était l'idée en fait de relever toutes les voitures à une hauteur minimale sous laquelle personne ne pouvait descendre, c'est qu'au lieu de faire ça, ils ont dit bah, on va demander aux autos qui marswinent de trop, qui rebondissent de trop, bah, de remonter. Donc ça veut dire que finalement, ça ne, bah, c'est pas une mauvaise solution en soi, parce que ça ne bouleverse pas la hiérarchie. Ceux qui ont réglé le problème du marswinage restent avec l'avantage qu'ils ont, et les autres, Mercedes en tête, ben, sont obligés de relever la voiture et donc se retrouvent avec un vrai problème de performance. Là aussi, Toto Wolff, l'année dernière, en fin de saison, avec tout ce qui s'est passé autour de Lewis Hamilton et de Max Verstappen, a eu des mots très très durs qui, par moment, ont dépassé un petit peu les limites. Il y avait de la déception, c'est clair. Tout n'a pas été parfaitement géré du côté de la direction de course. C'est un euphémisme de le dire comme ça, mais il y a un moment où, quand on fait partie d'un système, il faut quand même savoir garder un certain ton, tu vois, une certaine mesure dans ses propos. Je pense que, par moment, Toto Wolff a excédé des gens, et j'ai l'impression que là, en ce moment, on lui fait payer, finalement, de le voir dans la difficulté. On lui dit, bah, écoute, tu te souviens, il y a quelques mois, tout ce que tu nous as dit. Et bien là, j'ai l'impression qu'on lui fait payer.
Et puis, alors, ce qui le déçoit, en fait, c'est qu'il demande un geste, quand même, à l'ensemble du paddock. Souviens-toi, en 2021, le DAS, la direction à double axe, était interdite, ce qui permettait de modifier, en fait, l'ouverture
des roues,
le parallélisme, pardon, des roues à l'avant. Ils avaient fait aussi des coupes dans le fond plat, qui est amené à réduire de 10% le grip mécanique. Et la Mercedes en avait beaucoup pâti. Et c'est ce qui avait remis, en fait, sur un même plan, tout simplement, Red Bull et Mercedes. Et là, concrètement, ce que dit Wolff, c'est bon, bah, maintenant, tout le monde a des problèmes, et nous spécialement. Mais si on repartait sur une autre base, nous, ça enlèverait nos soucis. Et on aurait peut-être un championnat un petit peu plus disputé.
Oui, oui.
Et ça, c'est peut-être aussi ce qui va venir. C'est-à-dire que pour l'instant, la FIA dit elle n'est pas responsable, je dirais, des équilibres sportifs. Elle essaie d'abord de régler un problème qui tient à la santé des pilotes. Parfois, elle a fait des interdictions sur l'autel de la sécurité, parce que quand une écurie a développé quelque chose qui est très, très coûteux, si les autres équipes se partent dans ce développement-là aussi, ça va coûter à tout le monde. Et finalement, tout ça pour arriver au même système, donc ce n'est pas la peine de dépenser. Mais je pense, en fait, que la question va vite se poser sur aussi le promoteur du championnat, qui va dire hey, « Attention, là, il y a un cavalier seul. Est-ce qu'on ne peut pas quand même un petit peu rééquilibrer les choses et faire remettre Mercedes dans le jeu ?» Ce qui ne coûtera rien, parce que de toute façon, Mercedes, maintenant, ils ne vont pas être champion du monde.
Non, ça, c'est
donc,
clair.
C'est peut-être ça aussi que plaide Toto Wolff. Il dit « On a perdu. Vous avez bien vu, c'est bon. Donc, est-ce qu'on ne peut pas maintenant… »
Remettre
quand
un
même...
petit peu d'intérêt.
Ah, exactement.
Ça, c'est
donc,
clair.
Ça, c'est ce qu'il demande.
Bon, on va voir ce qui va se passer, parce que dans 15 jours, là, il n'y a pas de Grand Prix le week-end prochain. Tout le monde va pouvoir souffler un peu. Dans 15 jours, ce sera le Grand Prix de Grande-Bretagne, évidemment, qui est particulièrement important pour Lewis Hamilton, et aussi sans doute un peu pour George Russell. Et on va voir finalement si on va retrouver les belles promesses qu'on avait vues sur la Mercedes à Barcelone, et aussi du côté de Montréal, ou bien si on va revoir ce qui s'est passé du côté de Bakou. Clairement, l'enjeu à Silverstone, il sera énorme pour Mercedes, pour Toto Wolff, et aussi donc pour Lewis Hamilton.
Et on verra là si dans quelle proportion, en fait, la FIA peut instaurer tout un plan pour prendre des mesures, pour mesurer tout ce qui se passe dans les voitures, parce que moi, ce que je trouve compliqué, c'est que les équipes vont devoir anticiper tous ces soucis de rebond, en fait, et d'accélération verticale, qui seront peut-être plus sévères le dimanche qu'elles ne l'avaient prévu, le vendredi ou le samedi, et on déclarera peut-être des voitures illégales à l'arrivée de dimanche, parce que les voitures rebondissaient trop. Moi, ça me paraît un peu compliqué. La donne va changer de circuit en circuit. Je trouve qu'on s'embarque dans un truc très, très complexe, et que pour l'instant, la FIA ne maîtrise pas du tout.
Exactement. On va parler de Ferrari aussi, si vous le voulez bien. Deuxième place de Carlos Sainz, donc qui monte pour la cinquième fois sur le podium cette saison, avec une belle fin de course hein, pour l'Espagnol, qui, au moment de la safety car, a des pneus qui ont 6 tours de moins que ceux de Max Verstappen, mais jamais il ne parviendra même à porter une attaque. J'ai envie de te dire, Carlos Sainz, c'est un petit peu à l'image de Ferrari. C'est-à-dire qu'il est prêt, il est proche du très très haut niveau.
Mais il
a et en même temps, on a le sentiment qu'il est très très loin parce que bah, dans son duel face à Max Verstappen, on a vu un chat et la souris, un chat qui joue avec sa pelote de laine, qui le laisse se rapprocher. Mais jamais Carlos Sainz a pu véritablement déboîter, essayer de faire quelque chose. Dans le dernier tour, c'est là où il a été le plus près. Et dès qu'il a essayé, bah, il a loupé ses freinages. Le bon point pour Ferrari, c'est que Charles Leclerc ramène 10 points de Montréal en étant parti 19e sur la grille. Certes, mais il a engagé un quatrième moteur, Charles Leclerc. Donc en sortant de l'allocation des trois moteurs sur l'ensemble d'une saison. Et alors le problème, c'est qu'entre Bakou et le Canada, il n'y avait qu'une semaine de différence et qu'on a probablement pas eu le temps, en tout cas c'est ce qu'on disait du côté des représentants de la Scuderia, on n'a pas eu le temps d'identifier ce qui a provoqué la casse du moteur de Charles Leclerc à Bakou. Donc on a remis dans la Ferrari, pour le Canada, finalement, un moteur qui a une fragilité sans doute identique à celle qui a provoqué la casse du moteur à Bakou. Voilà pourquoi j'ai le sentiment que Ferrari est proche et en même temps loin de la possibilité de jouer le titre, un petit peu comme Carlos Sainz avec Max Verstappen. Il y a une ambiguïté là, c'est dur quand même pour la Scuderia.
Oui, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que Ferrari se paye avec des mots depuis le début de la saison, depuis plusieurs saisons même, de toute façon. Ils ont dit Leclerc, d'après nos calculs, aurait dû gagner à Bakou. Ah. Très bien, mais ça c'est gratuit. Voilà. Tu parles d'une casse moteur à Bakou. Schumacher a cassé son moteur aussi à Montréal dimanche. Donc c'est un problème supplémentaire encore qui se pose. Et bon, on fait des erreurs, on se pardonne tout. Chez Ferrari, on se pardonne toutes les erreurs depuis longtemps. Des erreurs de stratégie. Et on ne remet pas en question les gens qui sont à la stratégie, qui sont responsables du fiasco à Monaco. C'est ça qui était. C'est un peu dramatique quand même, parce que ça veut dire qu'il ne se donne pas une capacité d'avancer, tout simplement. Et tu as noté, effectivement, la remontée. Alors, c'est combien? C'est 14 places, non? Leclerc est passé de 19e à 5e. Ouais. Donc, c'est une satisfaction. Mais là encore, je dirais que le championnat de Formule 1 n'est pas le championnat des remontées. Mm-hmm. Tout simplement, il n'y a pas de point pour ça non plus. Alors, moi, j'ai quand même noté quelque chose. C'est qu'ils avaient en tête de contrer Verstappen et qu'ils avaient fait de la victoire une obsession. C'est-à-dire qu'il fallait prendre tous les risques. Et c'est ce qui s'est passé. On l'a vu tout de suite. Quand au 10e tour, il y a eu la voiture de sécurité virtuelle et que Verstappen est rentré tout de suite, eh bien, on a laissé chez Ferrari, ouais, Leclerc, Sainz en piste parce qu'on voulait faire l'inverse.
C'est ça.
Tout simplement. Et si Verstappen était resté en piste,
Sainz
aurait rentré. Ouais, parce que si tu fais, si tu calques ton attitude sur celui qui est devant toi, bah,
T'as perdu
automatiquement parce que tu peux pas le coincer à part faire un undercut miraculeux, mais c'est pas là c'était pas possible. Pas c'est tout à fait. Donc ils ont bien joué le coup, je trouve, à ce niveau-là. Ils ont attendu et sur le deuxième pit stop de Sainz, bah, c'est 46e tour, on lui dit. Alors, Verstappen venait de s'arrêter, et puis là, on se disait, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter, quoi? Et en fait, ben, il n'avait plus qu'une seule solution pour renverser la table, c'était d'attendre une voiture de sécurité. Mmh. Elle arrive 4 tours plus tard. Donc, c'est ce que Ferrari attendait, parce qu'il savait que sur ce circuit à Montréal, il y a beaucoup de safety cars, il y a beaucoup d'opportunités. Et par rapport à Verstappen qui, lui, menait et voulait être dans un plan, je dirais, qui est assez classique, ouais, ouais, pour ne prendre aucun risque, derrière, ben, Sainz était troisième ou deuxième, il y avait le choix. Et il laissait faire Verstappen devant, et ensuite il décidait de la meilleure façon d'intervenir. Alors, ce qui est un petit peu marrant, c'est qu'on avait un plan qui était assez clair chez Ferrari pour Sainz. Par contre, pour Leclerc, ils ont des plans, ils ont tout l'alphabet. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Et là, quand même, je me suis dit, quand on parle du plan D, en fait, c'est. Quand tu as plein de plans comme ça, comme Ferrari, en fait, bah, c'est que tu n'en as pas, tout simplement, et que tu ne sais pas quoi faire. Et ton plan, c'est peut-être
c'est
plan
bien
I,
résumé.
C'est le plan improvisation en permanence. Et d'ailleurs, Leclerc, qui à cet instant-là était encore derrière Ocon depuis des tours et des tours, leur a dit « Tentez ce que vous voulez, moi, de toute façon, je vais rester derrière, je ne peux rien faire de plus. » Voilà, c'était la réponse. Le plan D, qu'est-ce que t'en penses ? On veut dire, ils se posent des questions eux-mêmes. C'est un peu, on envoie une bouteille à la mer chez Ferrari. Waouh, là quand même, c'est bon. Mais il reprend jusqu'à la cinquième place, c'est pas mal, des beaux dépassements. Il a fait le job, c'était le minimum qu'il fallait atteindre. Ils ont sauvé tout ce qui pouvait l'être. Maintenant, ils vont effectivement, comme j'ai dit, repartir sur de bonnes bases. En espérant que ça leur porte chance.
Alors, on évoquait au début des Fous du Volant les 9,2 points de Charles Leclerc marqués sur ses 6 derniers Grands Prix. C'est un petit peu mieux pour Carlos Sainz, hein, qui a marqué 11,5 points en moyenne sur les 6 derniers Grands Prix. Le problème, c'est que pour Ferrari, il y a désormais une menace fantôme parce que derrière, il y a un George Russell qui, lui, score maintenant à 12,3 points sur les 6 derniers Grands Prix. Je suis resté vraiment sur le même espace-temps. George Russell, il n'est désormais plus qu'à 15 points de Charles Leclerc.
Et t'as vu, il a encore eu la chance avec la safety car. C'est hallucinant.
Ah, mais t'en as quand même une bonne étoile comme ça, c'est normal. Quand on est chez Ferrari, chez Mercedes, pardon, d'avoir une bonne étoile. Et au classement des constructeurs, ben, c'est pareil. Il y a 76 points de retard sur Red Bull pour Ferrari, qui pour la première fois depuis l'Australie a marqué plus de points que Red Bull au Canada. 76 points de retard sur Red Bull, tu te dis, bon, la messe est dite. Ouais, il n'y a que 40 points d'avance hein, sur Mercedes.
Ouais, absolument.
D'ici là, est-ce que d'un seul coup, Mercedes trouve une solution et se mette à rattraper Ferrari, alors là, on va vraiment parler de crise. Hein.
Je pense quand même qu'on n'en est pas là, ça serait un peu extraordinaire. Voilà, il faudrait que la Mercedes se mette à gagner quand même. Mais oui, c'est quand tu poses les choses comme ça, tu te dis qu'il va falloir qu'il regarde un peu derrière. Ce qui est très très étonnant.
C'est une longue début de saison, ouais. Ouais,
complètement.
C'est
complètement.
Ça.
C'est pas quelque chose qu'on imaginait. Et quand je pense d'ailleurs aussi que Ferrari essaie de préparer l'avenir, tu sais, avec Charles Leclerc, ils essaient de pousser pour leur signer 2 ans de plus, 2025-2026. Ben, si tu vois rien venir, c'est que dans l'esprit de Charles Leclerc, il est urgent d'attendre aussi.
Oui, c'est ça. Il doit y avoir quand même un doute. J'ai le sentiment que Ferrari est un petit peu dans un mirage depuis le début de cette saison 2022. Ils ont dominé le début de l'année parce que donc ils avaient basculé leur programme de travail plus tôt pour préparer cette voiture, ce nouveau règlement 2022. Ils avaient aussi beaucoup profité, mine de rien, des abandons qu'il y avait eu chez Red Bull sur les 3 premiers Grands Prix. Hein. Il y avait eu 3 abandons, un pour Verstappen, un pour Perez à Bahreïn, un autre pour Perez, non, pour Verstappen, pardon, en Australie. Et ça les a, oui, ça les a un petit peu éblouis. Ils sont restés dans un mirage et depuis, ça ne fait plus que ralentir. Voilà, maintenant, il faut s'y remettre. Alors là, il y a ces points marqués, pris du côté de Montréal, avec un nouveau moteur dans la voiture de Charles Leclerc. Maintenant, il faut continuer sur cette lancée, essayer de provoquer quelque chose pour que le doute, maintenant, passe du côté de chez Red Bull. Est-ce qu'ils en ont la capacité, Stéphane ? Honnêtement, moi, j'en doute.
Il faudrait que Sainz aussi soit au niveau. C'est la première chose, vraiment. Qui soit utile à Leclerc pour construire des stratégies d'équipe.
Par exemple, en réussissant un dépassement sur Verstappen.
Oui, pour gêner Verstappen. C'est malheureux, hein, mais on était quasiment tous persuadés qu'il n'y arriverait pas. Moi, je pensais même qu'il allait finir dans le mur, franchement, parce que c'était un petit peu dépasser à tout prix, prendre tous les risques ou se fracasser, ça n'aurait pas changé grand-chose. Bon, voilà. Donc, Sainz, il est juste. On sait que c'est un numéro 2. Bon. Je pense pas que ce soit lui qui change et qui soit capable de changer la donne.
Voilà pourquoi on se dit que finalement Ferrari est si près et si loin en même temps dans ce championnat 2022. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. Stéphane, on a une semaine de repos, on va pouvoir passer un week-end normal sans disséquer tout ce qui se passe en essai libre et en qualification. Et puis on se retrouvera pour l'un des plus beaux grands prix de la saison du côté de Silverstone. Ça sera dans 15 jours, mais d'ici là, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Fous du Volant. On a été complet ?
On a essayé.
On a essayé, effectivement. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, on coupe le contact.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.